Chapitre 19. Le meunier. Pardaillan avait suivi Menneville et Maurevers dès l'instant où il les avait aperçus. Au-delà de la porte Saint-Honoré, il avait laissé Angoulême et ses deux nouveaux laquais qui l'attendirent en se dissimulant derrière une masure. De loin, il avait assisté à la discussion du muletier avec Menneville et Maurevers. Puis il avait vu ce dernier s'enfuir à toutes jambes, il avait entendu le coup de pistolet, et rampant parmi les hautes avoines, il avait pu se glisser jusqu'à la haie, près de laquelle avait eu lieu l'entretien que nous venons de rapporter. Alors le chevalier se dirigea vers la masure où il avait laissé Charles. « Voulez-vous, lui dit-il, jouer un mauvais tour à Monseigneur Guise ?» Charles interrogea Pardaillan du regard. « Retournez à votre hôtel, reprit celui-ci, prenez-y des armes et des munitions. » Montez à cheval avec ces deux dignes serviteurs qui brûlent du désir d'en découdre en votre honneur. » Pickwick remua le bout de son nez pointu et la mine de Croasse s'allongea. « L'un d'eux, continua le chevalier, me ramènera mon destrier. Je vous attendrai dans le moulin que vous apercevez d'ici. » « Mais de quoi s'agit-il ? » demanda Charles. « Je vous l'ai dit. » De jouer un mauvais tour à Guise et de lui porter un de ces coups dont il ne se relèvera pas. Le petit duc n'en demanda pas davantage. Il avait en Pardaillan une confiance illimitée. Bien qu'il fût, lui, duc d'Angoulême, apparenté au prince, neveu du roi de France, il obéissait tout naturellement au routier sans fortune et sans titre. Il partit aussitôt et Pardaillan reprit le chemin de la butte Saint-Roch. Bientôt, il s'engagea dans les trois sentiers qui, une heure plus tôt, avaient été suivis par les 30 mulets. À son grand étonnement, le sentier était libre. Il put parvenir sur le plateau sans avoir été arrêté par aucune des sentinelles qu'il s'était attendu à rencontrer. « Est-ce que les mulets portaient vraiment de l'orge » songea-t-il. « Est-ce que toute cette histoire de somme d'argent au fond des sacs ne serait qu'une chimère ?»« Maurevers n'est pas homme à se tromper en pareille matière. » Les bords du moulin ne semblaient rien annoncer d'extraordinaire. Les grands bras ailés tournaient paisiblement sous la poussée d'une forte brise d'ouest qui soulevait des arômes de thym et de menthe parmi les herbes folles. Pardaillan entendait le bruit régulier et monotone de la roue broyant le blé. Des garçons tout blancs de farine passaient avec des sacs sur leurs épaules. Un cheval en liberté paissait l'herbe près de deux grands bœufs agenouillés qui s'émouchaient lentement de la queue. Mais de mulet, pas un. De muletier, pas l'apparence. Il entra dans le logis du meunier dont la porte était grande ouverte. Décidément, Maurevers a rêvé, grommela-t-il en frappant du pommeau de sa rapière sur une table. À cet appel, une servante rougeaude apparut et, d'un air étonné, s'enquit de ce que désirait ce visiteur armé de pied en cap et tel que le moulin n'en avait jamais dû voir. « Ma mignonne, dit à la grosse fille Pardaillan qui connaissait tout le pouvoir d'une adroite flatterie, ma mignonne, je voudrais parler à votre maître pour une affaire de farine, une véritable affaire d'or. »« Ah, ah !» fit un homme qui entrait à ce moment. « Une affaire d'or, dites-vous, mon gentilhomme ?» Et le maître meunier, qui venait de pénétrer dans la salle, fixa sur Pardaillan un regard vif et perçant. « Voyons l'affaire, » reprit-il. « Je veux simplement vous acheter quelques sacs de blé, mais en vous les payant 10 fois le prix habituel. »« 10 fois le prix ?»« Oui, » dit froidement le chevalier, « et notez qu'il m'en faut 30 sacs. Vous le voyez, c'est une fortune. »« 30 sacs ?» dit le meunier, qui jeta sur l'étrange acheteur un regard plus perçant et plus soupçonneux que le premier. « Oui, et je ne mets au marché qu'une condition, c'est de choisir moi-même mes sacs. »« C'est trop juste, » dit le meunier, qui alors, sans avoir l'air de le faire exprès, referma la porte d'entrée. « Vous pouvez même pousser le verrou, mon brave, » fit Pardaillan narquois. Surtout quand vous saurez que les sacs que je veux vous acheter sont justement les 30 qui vous ont été apportés tout à l'heure par 30 mulets. » À ces mots, le meunier jeta un cri d'appel et, de la pièce voisine, les muletiers, poignards et pistolets au poing, firent irruption. Pardaillan tira sa rapière et le combat allait s'engager lorsqu'une voix forte retentit. « Bas les armes !» Les muletiers s'arrêtèrent comme pétrifiés. Pardaillan, de son côté, baissa la pointe de sa rapière. Et alors il vit entrer un grand vieillard à l'attitude hautaine, aux yeux inquisiteurs, qui fit un geste de commandement. Les muletiers et le meunier disparurent. Pardaillan rengaina son épée. Le vieillard le considéra avec attention pendant quelques secondes, puis il dit « Monsieur, je suis le maître de ce moulin. Si vous avez une affaire à me proposer, c'est donc avec moi que vous devez traiter. » « Ainsi, dit Pardaillan, le vrai meunier de la butte Saint-Roch, c'est vous ?»«
C'est moi. »
« Je le crois volontiers, monsieur, » dit Pardaillan, qui s'inclina avec cette courtoisie mêlée de respect qui, chez lui, avait tant de prix. Car ce soi-disant meunier lui apparaissait comme un homme de haute et noble envergure. « Monsieur, dit-il alors, je crois inutile d'employer avec vous les détours. Je commence donc par vous déclarer que j'ai surpris votre secret. Les mulets qui sont montés ici étaient chargés d'or. »
« C'est exact, monsieur. Il y en a pour 3 millions. »
Pardaillan fit un geste d'indifférence. L'énoncé de cette somme énorme ne semblait pas l'avoir touché, et dès lors, l'étrange maître du moulin le considéra avec plus d'attention encore.
« C'est donc vous, reprit celui-ci, qui, tout à l'heure, vous êtes donné pour l'officier des droits de mouture et avez ouvert un de nos sacs ?»«
Non, monsieur, car jamais je ne me donne la peine de mentir. » Mais j'ai surpris une conversation de cet homme et j'ai su ainsi la vérité. Le maître du moulin, ou celui qui se donnait pour tel, examina Pardaillan qui, de son côté, rendait examen pour examen. Il n'y avait pas sympathie, mais chacun reconnaissait une force en son interlocuteur. « Pourquoi, demanda tout à coup le chevalier, avez-vous empêché ces dignes muletiers de foncer sur moi ?»
« Parce que votre figure m'a intéressé. J'eusse été fâché qu'il vous arrivât malheur. Et dès l'instant où je vous ai vu monter le sentier et entrer ici, j'ai désiré vous connaître. Voulez-vous me dire votre nom ?»«
On m'appelle le chevalier de Pardaillan. Et vous ?»«
Moi, je m'appelle Monsieur Peretti, » dit le vieillard après une courte hésitation.
« Et maintenant, dites-moi dans quelle intention êtes-vous monté au moulin ?»
« Savez-vous, demanda Pardaillan, qui étaient ces deux hommes qui ont eu querelle avec un de vos muletiers ?»«
Je crois avoir de loin reconnu l'un d'eux, celui qui était vêtu en garçon meunier. C'est le sire de Menneville qui appartient à la maison de Guise. » En parlant ainsi, M. Perret y fouillait les yeux de Pardaillan. Le chevalier ne s'étonna pas de ce que le meunier exerçât une telle surveillance et qu'il connût les gens de Guise.
« Et vous, monsieur de Pardaillan, reprit monsieur Peretti, n'êtes-vous pas au duc ?»«
Je vais vous dire, dit paisiblement le chevalier, dans quelle intention je suis monté au moulin. C'est cela que vous me demandiez, je crois, c'est cela qui vous intéresse. Vous saurez donc, monsieur Peretti, que je suivais justement monsieur de Menneville et son compagnon. »«
Qui était ce compagnon ?» fit vivement monsieur Peretti.
« Vous avez deviné Menneville. » Je vous ai dit mon nom à moi parce que vous me l'avez demandé. Quant à celui que vous ne connaissez pas et que je connais moi, son nom vous est inutile, je le garde pour moi.
Ah, ah, vous devez avoir une bien vive amitié pour cet homme. Mais continuez, je vous prie, vous m'intéressez de plus en plus.
J'ai donc pu entendre la conversation de Menneville qui est à monsieur de Guise, comme vous l'avez dit. Or, ce que veut faire ce Menneville me déplaît fort, et je suis venu ici pour l'empêcher.
Que veut-il donc faire?
Il veut aller dire à son seigneur et maître que les millions promis par le pape Sixte sont arrivés.
Bricone, murmura M. Perret, qui, cette fois, pâlit.
Plaît-il? Fit Pardaillan.
Rien. Poursuivez votre récit qui a pour moi un immense intérêt.
Je m'en doute. Il paraîtrait donc que sa sainteté, après avoir promis, se dédie. Pourquoi, je n'en sais rien et peu m'en chaud. Seulement, Menneville veut revenir ici en force, s'emparer des précieux sacs de sa sainteté,
porter à M. de Guise tout ce blé poussé à l'ombre du Vatican et que le duc convertirait en un gâteau royal. Et cela m'ennuie.
« Parce que vous voulez votre part du gâteau ?» fit M. Peretti en dardant son clair regard.
Pardaillan haussa les épaules.
« Si j'eusse voulu ma part, dit-il, je l'eusse prise. Non, je vous le répète, il me déplaît que M. de Guise mange de ce pain-là. Et je suis venu dire au meunier de Séan, « Brave homme, ce soir on t'enlèvera ton trésor, à moins que je m'en mêle. » J'ai donc fait signe à deux ou trois hardis compères qui, avec moi, seront là pour recevoir dignement les envoyés de M. le duc de Guise.
« Et pour ce service, dit M. Peretti, pour cette défense que vous m'offrez, que demandez-vous ? »
« Rien, répondit Pardaillan.
M. Peretti tressaillit. « Maître d'un pareil secret et venant offrir vos services, pouvant exiger beaucoup, vous ne demandez rien ? C'est bien beau, monsieur. Trop beau, peut-être. »
Si bas que le vieillard eut prononcé ces derniers mots, Pardaillan les entendit et il dit
« Évidemment, monsieur, vous pouvez soupçonner une trahison sous ce désintéressement qui vous paraît beau, à vous, et qui me paraît à moi très simple, puisque je n'ai nul besoin d'argent. Sans doute, vous pouvez vous demander si je ne suis pas un ennemi envoyé d'avance dans la place. Aussi n'ai-je à vous offrir que ma parole pour preuve de ma sincérité. »
Et si je ne vous croyais pas ?
En ce cas, dit froidement le chevalier, je serai forcé de vous tuer, vous et vos muletiers, afin que je puisse ensuite empêcher le trésor pontifical de tomber dans les mains de Guise.
Quoi, vous me tueriez ?
Non sans quelque chagrin, je dois l'avouer, car votre air me plaît.
Eh bien, par les saints et la Vierge, votre air à vous aussi me plaît fort.
Jeune homme, j'ai confiance en vous. Je veux donc commencer par vous montrer où sont cachés les sacs. Venez. »
Et M. Peretti grommela en lui-même,
« Cette fois, il faudra bien qu'il se découvre. »
Mais Pardaillan demeura assis et reprit tranquillement.
« Je n'ai nul besoin de savoir où est votre trésor, maître Peretti, et même si j'ai un bon conseil à vous donner, ce serait de faire recharger à l'instant vos sacs sur vos 30 mulets et de les faire filer. »
M. Peretti était sans doute un homme très soupçonneux, car il réfléchit que ce Pardaillan pouvait bien lui avoir été expédié pour attirer ses hommes dans une embuscade. D'autre part, cette physionomie étincelante d'audace et de loyauté lui inspirait confiance. Il résolut donc de ne pas remettre en route le trésor et d'accepter les services de Pardaillan.
« Vous êtes un brave chevalier, dit-il. Excusez mes défiances, elles vous sembleront naturelles quand vous saurez que je suis responsable de tout cet argent. Je parlerai de vous à notre Saint-Père, vous pouvez en être assuré, et il trouvera, lui, une récompense digne de vous. »
« Ma récompense est toute trouvée, dit Pardaillan narquois. Ne vous en inquiétez donc pas, je vous en prie. »
M. Peretti, encore une fois, demeura perplexe.
« Quel diable d'homme est cela ? » songea-t-il avec étonnement.
Et pour pénétrer le mystère, il pria le chevalier à dîner avec lui, ce que Pardaillan s'empressa d'accepter, vu que la matinale promenade lui avait fort aiguisé l'appétit. Pendant ce repas, il remarqua plusieurs choses. D'abord que le dîner lui-même était de beaucoup trop délicat pour un simple meunier. Ensuite que M. Peretti était entouré d'un respect étrange. Il en conclut qu'il avait affaire à quelque haut et puissant seigneur au service de Sixte Quint. Quant à M. Peretti, il ne put rien remarquer chez son hôte, sinon qu'il possédait le plus robuste appétit et qu'il avait la plus agréable causerie. Le dîner finissait lorsque le duc d'Angoulême arriva, escorté de Pickwick et Croas. Les deux laquais portaient chacun 2 mousquets, des pistolets, enfin tout un attirail de guerre qui fit sourire M. Peretti.
« Diable, fit-il, je vois que vous êtes homme de précaution. Nous avons là de quoi soutenir un siège. »
« Aussi bien est-ce d'un siège qu'il s'agit. »
« Quoi, vous croyez vraiment que le duc de Guise ?»«
Je crois que ce soir, il y aura une petite armée au pied de la butte Saint-Roch, voilà tout, » fit Pardaillan qui haussa les épaules. Dès lors, M. Peretti commença à se demander s'il ne ferait pas mieux de se retirer. Il ne doutait plus de Pardaillan. Mais jusque-là, il s'était volontiers bercé de cet espoir que le chevalier avait fort exagéré la situation. À la vue des armes de guerre, il commença à prendre au sérieux l'aventure. « Ouais, se dit-il, je serai mieux à mon aise dans l'hôtel de la vieille reine. Ma présence ici est-elle indispensable ?»« Non, certes. Une balle s'égare, un coup de dague est vite donné. Et qu'arriverait-il, Seigneur, si demain le monde apprenait la mort de Sixte Quint ?» Mais M. Perret y était brave sans doute. Et puis, une irrésistible curiosité lui était venue de voir à l'œuvre cet homme extraordinaire qui venait défendre un trésor et qui ne voulait rien recevoir en échange. M. Perret y demeura donc. La journée se passa sans incident. Vers la tombée du jour, Pickwick et Croas furent envoyés en sentinelle perdue au pied de la butte pour signaler l'approche de toute bande armée ou non. Pickwick était guilleré, mais Croas était plus lugubre que jamais. « Ah, ça !» demanda le premier. « Qu'as-tu à soupirer ?»« J'ai, morbleu, que l'injustice du sort me révolte à la fin !» dit Croas. « C'est toi qui es injuste. Comment ? Tu échappes au Belgodère qui te rouait de coups ? Tu te trouves engagé dans une maison où l'on mange 4 fois par jour, sous un jeune maître qui te parle avec une exquise politesse, bien loin de te battre, et tu te plains ?» « Eh, qu'importe tout cela si je suis tué ?»« Et pourquoi serais-tu tué, imbécile ?»« Mais parce que nous allons avoir bataille. Pickwick, veux-tu que je te dise une idée qui me passe par la tête ?»« Voyons l'idée. » »« Eh bien, ce monsieur de Pardaillan est un terrible homme qui ne rêve que plaisébos. »« Ceci me paraît assez juste. Après ?»« Après ? Eh bien, nous devrions nous en aller. » Pickwick tira sa dague. Écoute, mon ami, dit-il, si tu essaies de nous déshonorer en prenant lâchement la fuite avant même le combat, tu n'en mourras que plus vite, car je suis décidé à t'oxyre de mes propres mains. Croas fut immédiatement convaincu par le raisonnement limpide et frappant de Pickwick. Il promit d'être brave comme un Ajax, mais tout en descendant vers la chapelle Saint-Roch, où Pardaillan les envoyait en sentinelle, il soupirait fort et maugréait. À quoi nous servira d'être bien nourris si nos corps doivent être percés à coups de lance, de flèches ou de balles de pistolet jusqu'à devenir des écumoires? Cela nous servira toujours à mourir dignement dans la peau reluisante de 2 hommes gros et gras. Croas estima, ou fit semblant d'estimer, que c'était là une consolation tout à fait digne de considération et cessa ses plaintes. Les 2 géants maigres s'installèrent donc aux abords de la chapelle Saint-Roch et se mirent à surveiller le terrain dans la direction de la porte Saint-Honoré. La nuit était venue et Croas commençait à espérer que tout se passerait en douceur lorsqu'une troupe sortit de Paris et se dirigea droit sur la chapelle. Elle se composait d'une 40aine d'hommes d'armes et était suivie d'une lourde charrette que traînaient 3 forts chevaux. Les hommes d'armes étaient pour intimider les gens du moulin, la charrette pour transporter à l'hôtel de Guise les 30 précieux sacs. L'expédition était conduite par Menneville. Près de Menneville marchaient Maurevert, Bussy-Leclerc et Crusset. Le reste se composait de soldats, cette sorte de razzia devant demeurer secrète. Mais, mêlés à ces soldats, un gentilhomme masqué marchait silencieusement. C'était le duc de Guise lui-même qui avait voulu assister à l'opération, de crainte peut-être que l'un des sacs ne s'égarât en route. Menneville, Bussy-Leclerc et Crusset étaient des intimes de Guise, des agents dévoués corps et âme, propres à toute besogne, et ils étaient là à l'exclusion de tous autres gentilshommes du duc. On connaît Menneville et Maurevert. Crusset était un bourgeois, ligueur enragé, parent de ce Crusset qui s'était distingué de si horrible façon pendant les massacres de la Saint-Barthélemy. Il avait rendu à Guise des services d'une nature spéciale en lui désignant ceux qui, au Parlement, pouvaient lui faire une position sérieuse. De plus, il jouait proprement à la dague. Jean Leclerc, maître d'armes, créé par Guise gouverneur de la Bastille, était une sorte de bravo qui se vantait de n'avoir pas eu un seul duel qui n'eût été suivi de mort d'homme. À son nom de Leclerc, il avait ajouté celui de Bussy, en mémoire du fameux Bussy d'Amboise, si misérablement assassiné par les mignons d'Henri III. En somme, ces quatre hommes composaient le conseil secret d'Henri de Guise. Guise, en marchant vers le moulin pour s'emparer des millions que Sixte Quint avait fait venir pour lui et qu'il lui refusait maintenant, frémissait d'espoir. Avec cette énorme somme, il pourrait fausser la parole donnée à Catherine de Médicis de ne rien tenter de violent contre Henri III. Il pourrait acheter les conseillers du Parlement qui lui tenaient tête. Il pourrait payer les arriérés de solde des deux ou trois régiments qui n'obéissaient plus qu'en grommelant. Il pourrait lever une armée, tenir la campagne, chasser Henri de Béarn jusque dans ses montagnes, capturer Henri III, le déposer et se faire couronner. Enfin, c'était la reprise du plan large, vaste, énergique, échafaudé par la Fausta. Le duc de Guise, en montant au moulin, marchait donc réellement à la conquête de ce trône, objet de ses convoitises depuis 20 ans. Une sourde fureur l'animait contre ce pape Sixte, dont il avait reçu l'envoyé venant lui annoncer que sa sainteté, épuisée par des pertes d'argent, était dans l'impossibilité de le secourir. Moins de 2 heures après cet envoyé, qui avait prétendu venir de Rome en ligne directe, Guise avait reçu la lettre de la princesse Fausta, lui disant que l'argent était là. Menneville, envoyé pour s'assurer du fait, revenait bientôt le confirmer. Et Guise, dévoré de rage et d'impatience, se perdait en suppositions sur les causes de cette brusque défection du pape. Car enfin, si l'argent était là, c'est pour lui qu'il était venu. « Eh bien, avait-il dit, il n'y a qu'à prendre ce qu'on me refuse. Et malheur à Sixte si un jour il me tombe sous la main. » L'expédition avait aussitôt été résolue. Le plan était d'une belle simplicité. Marcher au moulin avec une troupe peu nombreuse pour ne pas donner l'éveil, tuer tout ce qu'on trouverait dans le moulin, charger les sacs sur une charrette et emporter le butin à l'hôtel de Guise. Pickwick et Croas aperçurent la petite troupe qui s'avançait en bon ordre. « Rentrons au moulin maintenant, » dit Pickwick. Mais, objecta Croas en jetant un regard terrifié sur les assaillants qui approchaient, « ne vaudrait-il pas mieux laisser passer ces gens? Nous continuerions à les surveiller par derrière. » »« Et si on se bat, ce qui va sans doute arriver, que ferions-nous, Croas ?»« Eh bien, nous surveillerions la bataille de loin. » « Monsieur le chevalier nous a envoyés pour surveiller. »« Croas, tu me fais honte. Allons, courons prévenir que l'ennemi arrive. » Pickwick s'élança, Croas l'imita. Mais au bout de quelques pas, il buta, ou fit semblant, et tomba sur les genoux. Pickwick continua seul son chemin en courant. Alors Croas se releva et se remit à descendre à toutes jambes vers la chapelle Saint-Roch. Mais à ce moment, la troupe signalée était sur le point d'atteindre elle-même cette chapelle. Croas entendit les pas pesants des hommes d'armes cuirassés et casqués de fer. Il frémit et se vit perdu. Mais au moment où la troupe de Guise commençait à tourner la chapelle pour s'engager dans le sentier où était assis Croas, un dernier instinct de défense le galvanisa. Il se releva, bondit, et, se hissant sur une borne, put atteindre, grâce à ses longs bras, la fenêtre qui éclairait le cœur de la chapelle. D'un coup de coude, il défonça les vitraux, et bientôt il se laissa glisser à l'intérieur. La troupe conduite par Menneville passa. Tout autre que Croas eût jugé que le danger était passé en même temps. Mais si Croas ne brillait pas en général par l'imagination, à cette minute, cette imagination surexcitée par la peur enfanta des incidents. Il entendit des chuchotements autour de la chapelle, bien qu'il n'y eût personne. De toute évidence, on l'avait vu, et la troupe entière, changeant de destination et de tactique, se préparait à donner l'assaut à la chapelle. Croas chercha, éperdu, un trou de souris où se fourrer, et parcourut la chapelle dans l'obscurité, se heurtant aux bancs, aux sièges qui dès lors devinrent des ennemis. La chapelle avait été envahie, toute une armée aux trousses du seul Croas. Il sentit son épouvante se décupler, et cette épouvante dépassant les limites, il devint brave, empoigna une chaise et se défendit. Alors, ce fut une bataille extravagante du gigantesque Croas contre des ennemis absents. La chaise, au bout de ses longs bras, faisait de terribles moulinets.
Encore un par terre » hurlait-il. « Lâche, cent contre un ! Vlan, un autre qui tombe ! À moi, au secours ! Grâce, messieurs, au meurtre, au truand !»
Croas, dans cette lutte fantastique contre rien, reculait. Soudain, il tomba tout de son long. Au même instant, une décharge d'arquebuse éclata au loin. Le bruit de l'arquebusade lointaine continua à surexciter sa terreur. Il se cramponna à un anneau de fer que ses mains rencontrèrent et il s'arc-bouta à cet anneau comme un noyer s'accroche au fétu de bois. Or, à force de s'arc-bouter et dans les mouvements spasmodiques de sa frayeur, Croas constata tout à coup que la dalle à laquelle était scellé l'anneau se soulevait. Alors, avec la force de la panique, il acheva de soulever cette dalle. Un trou béait. Toujours convaincu qu'il avait des légions à ses trousses, affolé par le bruit de l'arquebusade, Croas s'engouffra dans ce trou. Jamais lièvre ne se terra avec autant de précipitation. Ses pieds touchèrent les marches d'un escalier de pierre, et sans même songer à replacer la dalle pour protéger sa fuite, il descendit en hurlant ses appels et ses cris de miséricorde. Une sorte de long boyau s'ouvrait devant lui. Il se précipita. L'obscurité était profonde, absolue. Où aboutissait ce souterrain? Savait-il seulement qu'il se trouvait dans un souterrain? Croas courut à perdre haleine et le bruit de ses pas répercutés lui prouva que ses ennemis acharnés continuaient à le poursuivre. Soudain, son front heurta contre quelque obstacle. Croas eut la sensation d'avoir reçu sur le crâne un coup de masse d'armes. Il tomba et, s'abandonnant à son triste sort, s'évanouit. Pendant cette mémorable bataille de Croas dans la chapelle, Pickwick avait continué sa course et ce ne fut qu'en arrivant au moulin qu'il s'aperçut de la disparition de son compagnon. Le lâche a fui. Ah, Croas, tu nous déshonores! Et comme Pickwick ne voulait pas être déshonoré, il raconta à Pardeillan que Croas s'était embusqué au pied du sentier pour tenter une diversion.
Je fusse bien resté près de lui pour le soutenir, ajouta-t-il, mais il fallait vous prévenir de l'arrivée de l'ennemi.
Pardeillan fut convaincu que Pickwick avait eu peur et que Croas était pétri de bravoure. Le chevalier prit aussitôt ses dispositions et rassembla tout son monde dans la grande salle, c'est-à-dire le meunier, trois garçons meuniers, 10 muletiers, ce qui, en comprenant le duc d'Angoulême et Pickwick et lui-même, portait à 17 le nombre des défenseurs du moulin. Quant aux deux ou trois femmes du moulin, elles s'étaient renfermées dans une salle donnant sur les champs. Monsieur Perret y suivait de l'œil toutes les évolutions du chevalier. Une dernière hésitation se lisait sur le visage du vieillard. La nouvelle de l'approche de cette bande armée signalée par Pickwick l'avait fait pâlir. Mais cette pâleur n'était nullement provoquée par la frayeur. Pardeillan venait de faire sortir sa troupe. On entendait les pas des hommes de guise qui montaient le sentier. Bientôt, on distingua leurs ombres confuses.
« Ce jeune homme est-il un traître ?» réfléchissait M. Peretti. « Ce Pardeillan est-il un envoyé de Guise ? Je vais le savoir dans un instant. Ma destinée et celle du royaume de France sont dans les mains de cet inconnu. Si c'est un traître, mes millions sont à Guise. Guise est roi, et moi, prisonnier peut-être. Quelle aventure ! En quel temps vivons-nous, Seigneur ? Par le sang du Christ, nous verrons bien. Le vieux gardeur de Pourceau a plus d'un tour dans son sac. »
Pensif, il alla s'accouder contre les vitraux de la fenêtre et, assombri par ses soupçons, examina dans la nuit les dispositions prises par le chevalier de Pardeillan. Toutes les lumières avaient été éteintes. « Dans un instant, je saurai, » murmura M. Peretti. « Voyons, si ce Pardeillan me trahit, si Guise entre ici, que lui dirai-je »«
Je lui dirai... »
Une violente détonation éclata soudain. L'éclair de la décharge illumina la nuit et, dans le sentier, on entendit le hurlement des blessés, la retraite précipitée des survivants. « Ils en tiennent, » dit paisiblement le chevalier. « Rechargez vos armes sans hâte. Ils vont en avoir pour une demi-heure à se concerter et à revenir de leur surprise. » M. Perret y entendit ces mots et son visage s'éclaira d'un rapide sourire, comme la nuit s'était éclairée de la décharge des arquebuses et des pistolets. Ce n'est pas un traître, fit M. Peretti. Décidément, M. de Guise n'aura pas mon argent. Le Béarnais sera roi. Que n'est-il ici au lieu d'être à La Rochelle ?
Il ouvrit vivement la porte et appela le chevalier d'une voix caressante.
« Ne craignez rien, » dit Pardaillan en s'approchant.
« Je n'ai pas peur, monsieur, mais vous venez de dire que sans doute il n'y aurait pas de nouvelle attaque avant une demi-heure. »«
Avant une heure, peut-être. Eh bien ?»«
Eh bien, mon cher monsieur, le moment est venu de suivre l'excellent conseil que vous m'avez donné dans la journée, c'est-à-dire de faire filer mes 30 mulets. » « Seulement, je crains, je redoute... »«
Oui, vous craignez que M. de Guise, en trouvant le moulin vide, ne lance une bonne compagnie de cavaliers dont les chevaux auront vite fait de rattraper vos mulets. »«
C'est cela même, mon noble ami. Vous me permettez, n'est-ce pas, de vous appeler ainsi ? Car vous venez de me rendre un service, voyez-vous. C'est que j'étais responsable, moi. Et devant qui ? Devant notre Saint-Père lui-même. » Mais sa sainteté saura tout ce qu'elle doit au chevalier de Pardaillan. Mais me voilà bien embarrassée. Si on me poursuit, il faudrait... Ah, mon digne et vaillant défenseur, il faudrait...
Il faudrait, dit Pardaillan, que la troupe du duc soit arrêtée devant le moulin jusqu'au jour pour vous permettre de prendre de l'avance.
Je n'ai jamais vu personne d'aussi intelligent que vous. Dit M. Peretti avec l'accent de la plus vive admiration.
C'est que je suis un vieux routier habitué à toutes les malices, dit Pardaillan avec un sourire.
Eh bien, partez donc. Je me charge d'arrêter l'ennemi jusqu'à demain matin.
Quoi ? Vous consentez ? S'écria M. Peretti cette fois avec une émotion sincère.
Je vous ai dit que je voulais jouer un bon tour à M. de Guise.
Quoi ? À vous seul, vous arrêterez cette bande bien armée, car je vous préviens que le meunier de Séan et ses aides devront m'accompagner.
Je m'en doute, car tous ces messieurs ressemblent à des meuniers comme je ressemble au pape.
M. Peretti tressaillit.
Vous lui ressemblez peut-être plus que vous ne pensez, sinon par le visage, car notre Saint-Père est bien vieux, hélas, du moins par la force de caractère. « Jeune homme, vous ne voulez pas de récompense, et je vois à votre air qu'il est inutile d'insister. Mais prenez cet anneau, et peut-être qu'en certaines occasions, il pourra vous être plus utile qu'une fortune. »
À ces mots, M. Peretti glissa vivement une bague dans la main de Pardaillan, et sans y attacher d'autre importance, le chevalier la passa à l'un de ses doigts. 10 minutes plus tard, tandis que Pickwick, Charles d'Angoulême et Pardaillan continuaient à tirer dans la nuit, au hasard, pour donner à l'ennemi l'impression que le moulin était bien défendu, les 30 mulets, rechargés de leurs précieux sacs, sortaient par derrière et se mettaient en route. M. Perret y suivait à cheval, escorté par le meunier et ses garçons, transformés en gens de guerre. Quant aux servantes, elles avaient pris à pied la route de Montmartre. La caravane ayant atteint rapidement la ville l'évêque, celui qui paraissait être le chef des muletiers s'approcha chapeau bas de M. Peretti et lui demanda
« C'est bien la route d'Italie que nous reprenons ?»«
Non, monsieur le comte, » répondit M. Peretti, « vous prendrez la route de La Rochelle. » Pardaillan, Charles d'Angoulême et Pickwick étaient demeurés seuls dans le logis du meunier. Le moulin lui-même se dressait sur l'aile gauche de ce logis, et il communiquait par un escalier de bois qui, partant du rez-de-chaussée du logis, aboutissait à l'étage du moulin où se manœuvrait la meule et où on pouvait mettre en mouvement les grands bras livrés à l'action du vent. De cet étage du moulin, par une simple trappe à laquelle aboutissait une échelle, on descendait à l'étage inférieur où se recueillait la farine. Tout cet ensemble était juché sur un cône de poutre solide et pouvait pivoter de façon qu'on pût profiter du vent quelle que fût sa direction. Ce cône de poutre était recouvert d'un bâti de planches, en sorte que cela formait un réduit où on pouvait pénétrer au besoin. Pardaillan parcourut rapidement le logis et le moulin et se rendit compte de ses diverses dispositions.
« Voici notre quartier général, » dit-il en désignant le logis, « et voici notre ligne de retraite, » ajouta-t-il en montrant l'escalier qui conduisait au moulin.
« Nous allons donc nous battre ?» demanda Pickwick.
« Aurais-tu peur ?» dit Charles.
« Non, monseigneur, mais comme les gens de séance sont partis, je supposais... »«
Alerte !» cria Pardeillan.
La troupe de Guise, en effet, apparaissait à ce moment sur le petit plateau de la butte. Pardeillan ouvrit la fenêtre et cria.
« Hola, messieurs, qui êtes-vous? Que désirez-vous ?»«
Qui êtes-vous vous-même ? » fit dans la nuit une voix impérieuse.
« Ma foi, monseigneur le duc, répondit Pardeillan en reconnaissant la voix de Guise, je suis le meunier du joli moulin de la butte. Qu'y a-t-il pour votre service ?»«
Meunier ou non, dit le duc, vous avez tout à l'heure tiré sur mes gens qui montaient le sentier sans autre intention que de patrouiller. Qui que vous soyez, je vous tiens pour responsable de cette violence si vous êtes le chef des rebelles enfermés ici. » En conséquence, je vous préviens que vous serez pendu haut et court, à moins que vous ne sortiez à l'instant. Auquel cas, il vous sera fait grâce de la vie et il vous sera permis d'emmener vos hommes.
Un instant, monseigneur, me sera-t-il permis d'emporter aussi les 30 sacs pleins d'or que vous venez piller ?
Sortez ! Hurla le duc furieux. Livrez-nous la place ou nous allons vous donner l'assaut.
« Ah, monseigneur, si vous menacez, nous allons être forcés de faire une sortie et de vous exterminer tous. »
Guise, qui allait jeter un ordre, s'arrêta soudain avec un geste de rage.
« Ils sont peut-être 100 là-dedans, » dit-il à Menneville.
Pardeillan entendit et cria. « Nous sommes 3, monseigneur, 3, et c'est bien assez. Savoir, monsieur le duc d'Angoulême, qui attend avec impatience la rencontre que vous lui avez promise, le sieur Pickwick, baladin de son métier, actuellement laquais de monsieur d'Angoulême, et enfin votre serviteur, chevalier de Pardeillan.
Il ment, dit une voix, ils sont nombreux.
Ma foi, venez y voir, cria Pardeillan. Voyons, décidez-vous, venez, ou bien retirez-vous, car voici que nous allons mettre le moulin en branle et vous gêner le vent. Retirez-vous, ou par la mordieu, nous allons tirer.
Il y eut une vive débandade dans la troupe, chacun étant convaincu que le logis était défendu par une centaine d'arquebusiers. La présence du chevalier était une preuve de plus qu'une véritable armée était cachée là. Pardeillan éclata de rire et lança
« Au revoir, monseigneur !»
et il referma tranquillement la fenêtre.
« Oui, au revoir !»
gronda Guise, pâle de fureur. Et il donna aussitôt ses ordres. Avec les forces dont il disposait, il forma un large cercle de surveillance autour de la butte. Chaque homme avait pour mission de surveiller et non de se battre. Il devait surtout prévenir, au cas où on tenterait de faire sortir du moulin, tout bagage qui ressemblerait à des sacs de blé. Puis il expédia un sergent à Paris. 2 heures plus tard, ce sergent revenait, annonçant que les ordres du duc allaient s'exécuter, c'est-à-dire qu'une troupe de 1000 arquebusiers allait arriver. Pendant ces 2 heures, Pardeillan et ses 2 compagnons s'étaient fortement barricadés. Cependant, Menneville soupçonnait que le chevalier pouvait bien avoir dit la vérité. Il soupçonna surtout que les assiégés, quels qu'ils fussent, allaient cacher l'argent dans quelque réduit où il serait difficile ensuite de le trouver. Il résolut donc de pousser une pointe avec Bussy le Clerc. Quant à Maurevers, il demeura près du duc de Guise, frémissant de joie. Il tenait enfin l'ennemi tant redouté et disait au duc « Monseigneur, vous m'avez promis 200 000 livres sur le butin que vous allez faire. »
« C'est promis, Maurevers, tu les auras, foi de Guise. »
« Eh bien, monseigneur, je veux vous proposer un échange. Gardez les 200 000 livres et donnez-moi l'homme qui vient de vous parler avec tant d'insolence. »
« Je te comprends, Maurevers, dit Guise d'une voix assombrie. « Tu es cet homme. »
Mais moi aussi, je le hais.
Et nous avons un vieux compte à régler. Cela date de l'hôtel Coligny.
Moi, c'est plus vieux encore, monseigneur.
Bon, eh bien, tu garderas tes 200 000 livres et moi, je garde l'homme. Seulement, si tu veux te contenter de 100 000 livres, ce qui est encore un joli denier, tu auras permission d'assister à l'entretien que j'aurai avec le Pardeillan dès que nous l'aurons pris dans son terrier.
Peste, monseigneur, vous voulez me faire payer 100 000 livres le droit d'assister à ce spectacle? Ce sera donc bien beau.
Je te le jure, gronda Guise.
C'est égal, c'est un peu cher, dit Maurevers avec une joie furieuse.
C'est cher, mais sache que ledit entretien aura lieu dans la chambre des questions du Grand Châtelet. »
Ah ah ! Eh bien, cela vaut en effet 100 000 livres. J'accepte, monseigneur. »
Je te donnerai le cadavre par-dessus le marché, dit Guise avec un grincement qui voulait être un éclat de rire.
Alors, monseigneur, dit Maurevers livide de joie, je paie 200 000 livres.